question du Père Marie-Dominique Philippe sur Métaphysique aujourd'hui, le 3 juillet l'an 2000 à Saint-Gédard.
Le positivisme scientifique est sûrement ce qui est le plus répandu et qui est l'obstacle majeur d'une pensée philosophique. Quand justement ce positivisme est considéré comme l'absolu de la vie de l'intelligence, de la vie de l'esprit. Il y a aussi la phénoménologie qui est comme un succès d'année, comme l'herméneutique. On viendra après pour montrer qu'on ne peut pas, que c'est difficile d'établir une philosophie réaliste, sapientiale, à partir de la phénoménologie, à partir de l'herméneutique. Je crois que notre monde est très civilisé. Le positivisme est le signe d'une grande fatigue de l'intelligence. Alors, on se repose sur des données scientifiques. Je crois qu'aujourd'hui, il faut quelque chose de très radical. Des succès d'années ne peuvent pas suffire. On doit revenir à la source. Ce qui est à la source de notre civilisation de l'Europe, c'est la Grèce. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, au point de vue historique. Tout le monde est d'accord que la Grèce a joué pour nous un rôle essentiel. C'est très vrai que notre situation est très différente que quand la Grèce a pénétré dans Rome et a pénétré avec les Sénèques sur une philosophie nouvelle. Il y a l'éclosion de la science. Il y a l'œcuménisme philosophique. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a la Chine, qui est une grande puissance, un grand empire, qui est le seul, je crois, qui fait peur aux Américains. Et puis il y a l'Inde. On est en présence de 3 grands courants très différents et qui viennent jusqu'à nous. Parce que aujourd'hui, c'est l'avantage et en même temps le grand danger, c'est qu'on est, on peut être au courant de tout cela. On ne peut plus s'enfermer dans l'Europe, voir que l'Europe, voir uniquement les dernières philosophies européennes, allemandes, c'est pas suffisant. Il y a la Chine qui monte, il y a l'Inde. Et l'Inde, c'est la diversité, c'est la multiplicité. La Chine est beaucoup plus une. Du reste, dans sa culture. C'est un autre génie. Je crois que ce que je vous disais tout à l'heure, ce matin, est encore plus vrai aujourd'hui pour voir ce qu'on doit faire. C'est difficile d'être compétent pour le grand courant de la Grèce avec l'Europe et qui aboutit à nous, et d'être compétent vis-à-vis de la Chine et de toutes les idées chinoises. L'Inde, il y aurait aussi l'Afrique. Mais l'Afrique n'a pas d'idéologie. Ces idéologies qu'elle prend, elle les emprunte à l'Europe. De sorte que je crois qu'il y a vraiment ces trois grands courants. Face à cela, qu'est-ce qu'on doit dire ? L'homme demeure le même. L'homme actuel, ce que vous êtes, homme ou femme, vous êtes impressionné par le courant grec, vous êtes impressionné par le courant chinois, vous êtes impressionné par le courant de l'Inde. C'est normal. Mais tous les trois aboutissent, terrain d'atterrissage, l'homme. L'homme ne se réduit pas aux Chinois. L'homme ne se réduit pas à l'Européen. L'homme ne se réduit pas à l'Inde. Vous avez trois types. Et c'est vrai, vous avez trois génies, et c'est vrai. On doit donc creuser chacun de ces génies pour retrouver ce qu'il y a en lui d'universel. De catholique. Catholique, ça veut dire universel. Je crois qu'en creusant et en creusant, en purifiant ce qui est propre au courant grec, dans ce qu'il a de plus pur, je peux dialoguer avec un Chinois. Et également reconnaître que dans l'Inde, il y a différents courants. L'être humain. Est commun. Pour le Chinois, l'Inde et l'Européen. Si j'ai un regard suffisamment net et pur pour se voir où se fait l'unité. Et c'est ça que je veux regarder avec vous. Il y a deux types d'œcuménisme. C'est l'œcuménisme le plus profond, celui-là. Il y a un œcuménisme qui essaie de voir ce qui, dans le courant grec d'Athènes, Aristote et Platon. Je prends Aristote et Platon. Parce que tout se ramène à Aristote et Platon. Si on regarde Platon et on regarde Aristote, dans leur profondeur, dans ce qu'ils ont de plus radical, je crois qu'on peut rejoindre un Chinois cultivé, intelligent, qui cherche lui aussi à redécouvrir l'homme à travers le Chinois, comme nous essayons de redécouvrir l'homme à travers le grec. Je ne m'arrête pas au grec. Tu dis le grec, c'est très beau, mais le grec m'aide à comprendre l'homme. C'est ça que le philosophe essaie de chercher. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Je n'ai pas une philosophie européenne. Qu'est-ce que c'est que l'européen ? Qu'est-ce que c'est que le chinois ? L'asiatique ? Qu'est-ce que c'est que l'Inde ? C'est très intéressant, sans doute. Vous voyez la différence. Je peux me servir du grec, d'Aristote et de Platon pour connaître ce qu'est l'homme. Je peux me servir du chinois et d'avoir des amis qui pensent profondément chinois pour voir ce que c'est que l'homme. Et je peux, dans l'Inde, au milieu de toute cette diversité, chercher à comprendre ce que c'est que l'homme. Le terrain d'atterrissage, pas seulement le terrain d'atterrissage, mais aussi la finalité. L'homme, il est pourquoi ? Pourquoi l'homme existe-t-il ? Pourquoi existe-t-on ? Quelle est notre finalité ? Ma finalité n'est pas européenne. Je regrette. Je regrette aux hommes politiques. Il y a des Européens pour vous qui croient que c'est ça la finalité humaine. Je leur dis non. Au point de vue philosophique, ma philosophie n'est pas européenne. J'aime l'Europe, mais ce n'est pas européen. Je veux la dépasser. La finalité n'est pas l'asiatique. On l'aime. C'est un autre génie, mais derrière lui, il y a l'homme. Vous voyez, c'est quand même très important de voir que le philosophe s'intéresse au terrain d'atterrissage. Le philosophe ne s'intéresse pas aux Grecs. Il s'intéresse beaucoup à ça, mais il ne s'arrête pas à ça. Ils ne s'intéressent pas à l'asiatique. Ils s'intéressent comment l'asiatique pense-t-il l'homme. L'Inde, comment l'Inde pense à travers la diversité des courants, à travers la multiplicité, cette multiplicité. Parce que si l'asiatique a une unité, l'Inde a la diversité. C'est très curieux, ça. Et le grec, qu'est-ce qu'il a ? Le grec, si on le regarde bien, il a cette lucidité sur ce qu'est l'homme dans son fondement et ce qu'est l'homme dans sa finalité. Alors je ne dis pas qu'il faut tout ramener aux Grecs, surtout pas. Hein. Mais il faut comprendre que le grec dépasse le grec. J'ai toujours aimé cette expression que le Saint-Père emploie souvent. L'homme doit se dépasser pour savoir ce qu'il est. L'homme ne peut pas savoir ce qu'il est en se regardant dans la glace. Il ne peut savoir ce qu'il est qu'en se dépassant. Ah, c'est très beau. L'Européen ne peut savoir ce qu'il est qu'en se dépassant. Autrement, il se tue. Le Chinois ne peut savoir ce qu'il est qu'en se dépassant. Je crois qu'on arrive à un moment extrêmement important où tous, on comprend ça. Alors, si on veut regarder l'Européen face à l'Américain, on lutte contre eux. Alors qu'on devrait s'unir, l'Américain, il est un petit-fils, un arrière-petit-fils de Platon et d'Aristote. Quand même, il y a un lien, il y a un cordon ombilical qui existe toujours entre l'Américain et Aristote et Platon. Je me souviens que la première fois que j'ai été aux États-Unis, 1950, quand même, c'était sur la liberté, donc un transat. On est arrivé sur New York. Là, tout le monde regardait New York, la nouvelle Rome. Oh, la nouvelle Rome, j'entendais ça derrière moi. Tout. C'est vrai, il y a une parenté. Ces deux mondes se tiennent, c'est pour ça qu'ils luttent entre eux, parce qu'ils tiennent. S'ils ne se tenaient pas, ils ne lutteraient pas. Ils se tiennent. La possibilité de comprendre le fondement 1. Pour l'Asiatique, c'est plus difficile, pour l'Inde, c'est plus difficile, quoique si on se pose la question, on arrive très facilement à comprendre qu'il faut ce dépassement que fait le philosophe. Je crois que c'est le propre du philosophe, ça. S'il est français, c'est d'aimer la France, mais de la dépasser pour l'aimer plus. S'il est anglais, c'est de dépasser l'Angleterre pour l'aimer plus. S'il est turc, il faut dépasser le turc pour l'aimer plus, l'asiatique, l'Asie mineure, et ainsi de suite, vous voyez. Il y aurait une espèce de litanie mondiale à faire pour montrer ce dépassement. Sur quoi ce dépassement ? Ah, c'est là la grosse question. Sur quoi se fait ce dépassement ? Je crois qu'on est tous d'accord qu'il faut ce dépassement et qu'on est à l'âge de ce dépassement. Et à ce point de vue-là, c'est un âge très critique et très grand et qui se présente à nous d'une façon très nette. Au point de vue philosophique, il y a deux manières de faire ce dépassement. Il n'y a pas 36. Il y a deux manières de faire ce dépassement. Je prends surtout pour l'Europe ceux qui sont formés à l'intelligence européenne, à l'intelligence grecque. Et je crois qu'on retrouverait partout ces deux dépassements. Ces deux dépassements sont congénitales à l'homme. Mais ils sont très différents. un premier dépassement. On creuse dans l'homme pour découvrir dans l'homme ce qui est proprement humain. Je peux discerner ce qui est proprement humain, ce qui est divin par la grâce, ce qui est mon milieu congénital, ma patrie, qui n'est pas ce qui est proprement humain. C'est accidentel d'être né en France ou en Angleterre ou en Amérique. C'est accidentel. Ça n'a pas changé beaucoup la couleur de mes cheveux. Non. Et la longueur de mon nez, oui, un peu. Mais le corps est quelque chose de secondaire au point de vue de l'homme. Si l'esprit, c'est l'âme, même si les positivistes c'est notre chair, scientifique le nie, l'âme existe et elle est la partie essentielle de l'homme. Ceci c'est vrai pour les Hindous, c'est vrai pour les scientifiques, pour l'Asie. C'est vrai pour le courant helléniste. Qu'est-ce qui est essentiel à l'homme, à l'âme humaine? Je creuse pour trouver l'essentiel. Et je regarde ce qu'il y a de plus profond en moi et ce qu'il y a d'ultime en moi. Ce pourquoi je vis. Il y a des sages européens, des sages grecs, il y a des sages asiatiques, il y a des sages dans l'Inde. Ah, j'ai donc deux points de repère essentiels. Le fondement, ce qu'il y a de plus profond, et ce qu'il y a d'ultime. Je crois que c'est deux points auxquels il faut se tenir et qui peuvent permettre de découvrir la possibilité d'une reprise radicale au plan philosophique et au plan sagesse. Parce que je crois que, justement, le sage, c'est celui qui a saisi le fondement le plus profond de l'homme et qui a saisi ce pourquoi l'homme existe, sa finalité. Et le sage grec, le sage asiatique, le sage de l'Inde, sont dans un œcuménisme, dans une unité, ils acceptent de chercher ensemble. Vous voyez, ça c'est la première façon de répondre à cette question. Il y a une autre façon de répondre. C'est de répondre non pas par le fondement et la finalité, mais de répondre en disant « Nous sommes arrivés à un âge très parfait. La culture scientifique a atteint quelque chose d'ultime. La philosophie a atteint aussi quelque chose d'ultime. » Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose d'ultime ? Ultime pour l'Europe, pour l'Amérique, pour le courant hellénique, qui doit rejoindre ce qu'il y a d'ultime dans le courant asiatique, dans le courant de l'Inde. Et on fait l'unité par ce super. Et c'est très curieux, dans le langage français, les jeunes aiment beaucoup ce qui est super. C'est de vouloir faire l'unité par le super. Le super hellénique, le super asiatique, le super inde. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qu'il y a de plus affiné l'herméneutique. On veut déclarer qu'on est à l'âge herméneutique. Herméneutique, ça veut dire interprétation, hein, en grec. Mais on dit en français herméneutique. On devrait dire en français interprétation. C'est non plus regarder la pensée, mais le langage. La fine fleur, c'est le langage. La pensée, elle est cachée. Avec la parole, elle est visible. Alors, on prend le langage, la critique, l'interprétation. On ne creuse plus pour se voir le fondement et le point ultime, mais on regarde au contraire le super. Et on essaie d'unir les supers, ce que je crois impossible. Parce que ce qui est super est super. Et ne tolère plus l'unité. L'unité, elle se fait dans la recherche et pas dans le super. C'est impossible. Et c'est là l'erreur de ceux qui veulent l'unité par le point de vue herméneutique. C'est très visible, ça, par l'interprétation du langage. Il n'y aura jamais d'unité dans la langue. La langue, c'est super. Je suis un poète, c'est super. Il y aura le poète européen, les Grecs, le poète chinois, le poète de l'Inde. Ils ne s'uniront pas, ils resteront en rivalité. Et se regarderont comme des rivaux, et non pas du tout comme possibilité de s'unir. Il n'y a pas de possibilité d'union dans le super. Le super s'oppose au super. Il ne daigne s'opposer qu'au super. La langue. De sorte que je ne vois qu'une seule manière pour notre monde d'aujourd'hui de vraiment aller jusqu'au bout, c'est de creuser toujours plus à fond. Et c'est en même temps de voir toujours ce qu'il y a d'ultime et de garder ces deux dimensions qui ne peuvent pas s'unir, parce que l'homme est essentiellement un être qui progresse. Il sort du sein maternel où il était tout petit pour devenir un géant, pour devenir un être très intelligent, plein de lauriers, et qui alors peut s'unir à un autre s'il accepte d'être un être qui doit grandir. Et s'il accepte qu'il doit être un être qui grandit, il accepte de donner la main à quelqu'un de tout autre, apparemment, et en réalité identique à lui. Il n'y aura jamais d'unité dans les apparences. Et c'est pour ça que le super, l'herméneutique, ne pourra jamais unir tout le monde. Parce que c'est les apparences. C'est au contraire celui qui creuse et qui atteint l'être. Je suis. Un Grec peut dire je suis. L'Europe peut dire je suis. L'Amérique peut dire je suis. Ils le diront dans le langage différent, et ce sera la même réalité. La réalité n'est pas dans la parole, elle est dans la pensée, dans l'intelligence qui creuse. Et elle est dans le cœur qui atteint sa fin. Le bonheur peut être le même pour un Grec que pour un Chinois, que pour quelqu'un de l'Inde. Le bonheur unit les sages. C'est assez extraordinaire ça, de voir l'herméneutique qui se situe au niveau de l'interprétation et du langage. N'arrivera jamais à l'unité. Parce que les traductions seront toujours des traductions. Ils ne seront jamais le jaillissement premier. C'est très important ça. Donc, si ceci est vrai, nous sommes tous dépendants de la Grèce. Même si pour vous, il y a des Asiatiques ici. Je sais bien qu'il y en a. Et ces Asiatiques comprennent que cette connaissance qu'ils ont du monde hellène, de la Grèce, peut les aider à mieux comprendre ce qu'ils sont. Et les Indiens aussi. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'être encore plus profondément dans notre culture hellène, grecque. Aristote et Platon. Et deux grands génies. Je crois que j'aurais toujours beaucoup de peine à trouver deux génies comme cela, encore maintenant, quand j'ai des philosophes modernes, je me pose tout de suite la question, Est-il dans l'orientation de Platon? Est-il dans l'orientation d'Aristote? J'ai donc, avec Platon et Aristote, deux types remarquables, géniales, deux types de philosophes, de sages. Quel est le début de la philosophie de Platon? Quel est le début de la philosophie d'Aristote? C'est cela que je dois creuser. Et l'Asiatique doit prendre les deux grands génies asiatiques et de les creuser jusqu'au bout. Et pour l'Inde aussi. Le point de départ de la philosophie de Platon, puisque Platon est le premier, c'est l'intuition, que je dirais une sorte d'intuition artistique, disons seulement intuition. Platon a des intuitions. Et chacun de ces dialogues relève d'une intuition. Ces dialogues sont bien de Platon. Ces dialogues, est-ce qu'ils peuvent se ramener à l'unité dans, qui sont dans la diversité? Alors on dira le pré-Platon, Platon au début, le Platon dans son épanouissement, le Platon sans critique. C'est très curieux de voir comme les trois âges de Platon. Platon jeune, je vais conquérir le monde. Platon n'avait qu'un seul désir, c'est d'être philosophe et d'être roi. Il avait des ancêtres un peu empereurs, donc il avait du sang dans les veines qu'il appelait être roi. Platon, arrivant à la maîtrise de son système, la République, une heure magnifique, fausse, mais magnifique. Et puis, la critique, cette auto-critique de Platon, très étonnant, les trois Platons. Et est-ce que ce n'est pas le sort de toute intuition, ça? Est-ce que ce n'est pas l'évolution même de l'intuition? L'intuition au point de départ, l'intuition qui s'épanouit, et puis les pieds d'argile de Nabucodonosor, les pieds d'argile de cette merveilleuse synthèse, de cet étonnant édifice. En critique, il a des pieds d'argile. Ça ne tient pas. Aristote, beaucoup moins brillant, beaucoup moins brillant. Aristote, face à Platon, élève de Platon, je ne dis pas disciple, je dis élève, il a suivi Platon. pendant 20 ans. Il a eu du courage, hein. 20 ans. Mais c'est merveilleux. Il a appris beaucoup, Brad Platon. Il a pris tout le sucre de Platon. Il a gardé la finalité. Oh, la contemplation. La contemplation, elle est platonicienne. Elle est aristotélicienne. Et puis, il a vu que les pieds étaient d'argile. Il a vu que ça ne tenait pas. Oui, l'intuition, il faut l'avoir, l'intuition. On ne la communique pas à tout le monde, l'intuition. Platon a eu des disciples qui sont toujours maladroits et qui trahissent toujours leur maître. Parce que l'intuition n'a pas la même valeur, la même force. Alors, l'intuition est faible. Aristote a dit, plutôt que l'intuition, il faut l'expérience. L'expérience, on l'a tous. Tandis que l'intuition, on l'a pas tous. C'est très beau de voir ces deux génies. Intuition, expérience. Le point de départ, totalement différent. Le sommet, oui, l'un et l'autre tendent vers la contemplation, mais par deux voies différentes. Une voie communicable et une voie incommunicable. Par l'intuition, la voie est incommunicable. Ne peuvent suivre Platon que tous ceux qui, comme lui, sont saisis d'intuition. Tandis que peut suivre Aristote tous ceux qui font attention à leur expérience interne et externe. Et qui critiquent leur intuition, mais les reçoivent. C'est très important d'avoir des intuitions. Quelqu'un qui n'a jamais d'intuition, c'est très ennuyeux. Tandis que quelqu'un qui a des intuitions, oh, c'est reposant. Il faut les critiquer. Pied d'argile. Je crois que nous devons revenir à ces deux grands, nous demander lequel de ces deux grands a raison. Est-ce Platon, est-ce Aristote? C'est intéressant de se poser la question comme ça. Évidemment, il faut avoir lu tout Platon, il faut avoir lu tout Aristote, pour être loyal. Lire Platon, c'est très intéressant. Il faudrait le relire à toutes les périodes de notre vie. Et on n'a pas le temps, hélas. Je suis persuadé que lire Platon dans sa vieillesse, ça doit être très intéressant. Dire comment Platon reste-t-il si naïf? Et pourtant, il y a des néoplatoniciens qui sont des vieillards. Curieux. Ça prouve que son intuition est extrêmement forte. On reconnaît toujours la grande famille de Platon. Fécondité extraordinaire. Platon, dans la philosophie européenne, est vraiment le maître de la philosophie contemporaine. Ils ne l'avouent pas, parce qu'ils sont tous en dessous de Platon et ils voudraient tous au-dessus de Platon. Alors ils ne peuvent pas dire que Platon a été leur maître. Mais quand même, Platon est un maître extraordinaire. Aristote, il avance beaucoup plus modérément. À pas lent. Il faudrait lire tout Aristote. Et le relire en ayant beaucoup d'expérience. Je crois qu'Aristote est très difficile pour des jeunes. Et il est très difficile pour des vieillards. Parce que il faut garder l'espérance en Aristote. Aristote a compris que le drame n'était pas philosophique. Il l'envoie au comédien, à l'artiste. C'est très beau d'avoir compris ça. Platon n'a pas compris ça. Platon n'a pas fait ça. Le drame est dans sa philosophie, est au cœur de sa philosophie. Tandis qu'Aristote l'a chassé. Le philosophe, il faut un ciel serein, sans nuages. Aristote ne s'en est pas débarrassé en disant « ça n'existe pas ». Il sait très bien que le drame existe. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de drames dans le ménage d'Aristote, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de drames. Aristote est le premier, il ne faut pas l'oublier, qui dans son testament, lègue son testament à son épouse. Ah. Toutes les femmes devraient regarder Aristote comme un excellent mari. Tandis que Platon, il n'a pas fait ça. Oh, pas du tout. Oh. C'est très curieux, cela. Le réalise Aristote en face de Platon. Il fallait que Platon aille très loin dans l'idéalisme, de façon magnifique, pour qu'Aristote aille très loin dans le réalisme. Il y a toujours cette espèce d'appel constant. Merveilleux du reste, étonnant. Et Aristote montre que par le moyen de l'expérience, respectant les sensations, respectant l'expérience interne et externe, l'intelligence peut aller beaucoup plus loin. Aristote reconnaît, bien avant que les sciences existent, les sciences dites expérimentales. Elles sont impossibles avec Platon. Elles sont possibles avec Aristote. Un aristotélicien respecte les sciences et les voit à leur niveau, ce n'est pas la sagesse, mais c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau. Alors nous allons creuser ensemble, en suivant Aristote, dit Dante, le maître de ceux qui savent. Il est même le maître de ceux qui ne savent pas grand-chose. Parce qu'étant un maître extrêmement miséricordieux, il nous permet d'arriver petit à petit, lentement, mais sûrement, à la sagesse. Désire aller à la sagesse, par ses intuitions. Il y arrive par ses intuitions, mais il ne peut pas les communiquer. Et l'imaginaire est là, qui soutient cette intuition, qui soutient sa contemplation. Aristote, lui, écarte le drame en disant « ça, ça regarde le l'art ». Écarte le mal, c'est l'art. Il est toujours dans un ciel serein. Alors on a dit Aristote n'est pas réaliste, il est dans le ciel serein, mais il est très réaliste, parce que nous savons que le drame n'ajoute rarement quelque chose à notre pensée. Pour penser, il faut être un peu calme. Quand vous êtes dans le drame, vous avez envie de prendre la casserole remplie d'eau bouillante et de la renvoyer à la tête de l'adversaire. C'est ça que vous désirez faire. C'est l'irascible. Et c'est pas très intelligent. C'est l'élément de force qui veut dominer. L'eau bouillante, elle peut être dans les paroles. Il y a des paroles qui sont de l'eau bouillante. Ça tombe dessus, hein, et ça tombe sec. C'est pas très intelligent. Alors, on va poursuivre pour essayer de comprendre comment une vraie philosophie doit commencer par l'expérience. Qu'est-ce que c'est que l'expérience? Où nous mène l'expérience?